Salut à tous, salut à toutes. Vous êtes sur RTF 95,4 MHz et vous pouvez l'avoir aussi sur le net, vous pouvez l'avoir aussi sur le DAB. Voilà, c'est les Barricades Mystérieuses, une émission de musique classique et de littérature, enfin en tout cas de livres. Alors aujourd'hui deux livres comme à l'accoutumée qui sont, si l'on veut, de la littérature, mais pas forcément. D'abord le dernier livre de Peggy Sastre et de Leonardo Orlando, un assez gros livre, assez savant, qui s'appelle « Sexe, science et censure ». Et puis un livre un peu plus ancien, un livre de Pierre Bayard, « Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ». Et puis musicalement, alors j'ai essayé de trouver des choses originales et je crois que j'y suis parvenu, puisque nous allons écouter, entre autres, des extraits d'une œuvre qui s'appelle « Le manuscrit de Madame Théobon ». Alors je dis d'une œuvre, il y a en réalité beaucoup de compositeurs qui ont laissé à cette dame un manuscrit. Voilà, c'est un enregistrement tout récent. Et puis un musicien, un compositeur, alors tout récent puisqu'il est encore vivant, c'est Guillaume Connaisson. Il est prof de quelque chose, peut-être d'écriture ou quelque chose comme ça, au SUB de Paris. C'est quelqu'un de très connu et qui a écrit aussi des opéras. Voilà. Et puis d'autres petites œuvres, voilà, des récentes et des moins récentes. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter Les Nuits d'été. Alors un extrait bien sûr des Nuits d'été de Berlioz. Alors, Nuits d'été, il y en a une qui est très connue, c'est La Villanelle. Alors La Villanelle, c'est celle qui se termine, celle où il y a une faute de français, puisque le poème est de Théophile Gautier. Et à un moment, il dit en rêvant de nos beaux amours. Or, amour au pluriel est féminin en français. Voilà, comme amour, délice et orgue. Mais enfin, c'est un poète, donc on peut lui pardonner. Voilà, donc interprété par Anne-Catherine Gillet et l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Thank you. Voilà, eh bien, c'était deux extraits des Nuits d'été de Berlioz. D'abord, La Villanelle, et puis Le Spectre de la Rose, alors interprété par Anne-Catherine Gillet, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Paul Daniel. Alors, je vous propose maintenant d'entendre quelque chose d'assez inhabituel. Voilà, il s'agit d'un manuscrit qui était le recueil de pièces de clavecin de Madame Théobon. Alors, cette Madame Théobon a fait partie des très nombreuses maîtresses de Louis XIV. Et elle faisait de la musique et donc elle avait un très beau livre de morceaux. Alors, il y en a toute une tapée, il y en a une soixantaine. Et donc, d'un peu tous les musiciens de l'époque. Et Christophe Rousset a retrouvé ce manuscrit. Alors, il y a des pièces de Lully, etc., de tous les musiciens de l'époque. Et il l'a enregistré sur un très beau clavecin qui date de 1702, je crois. Alors, légèrement restauré, hein, quand même, il l'avoue. Alors, je vous propose d'écouter, donc, tiré de ce manuscrit de Madame Théobon, je vous propose d'écouter Les Folies d'Espagne de D'Anglebert. Voilà, donc c'était un extrait, Les Folies d'Espagne de d'Anglebert, interprété par Christophe Rousset. C'était un morceau qu'il a retrouvé, on l'avait par ailleurs, hein, mais qu'il a retrouvé dans le livre de clavecin de Madame Théobon. Et il le joue sur ce magnifique clavecin d'époque, mais quand même bien restauré. Alors, premier livre de cette émission, Peggy Sastre et Leonardo Orlando. Alors, Peggy Sastre est une chercheuse et aussi une journaliste. Elle écrit dans Le Point. Et elle est très connue et très détestée des féministes radicales. D'abord, elle a écrit, il y a quelques années, un livre qui s'appelait « Le patriarcat n'existe pas ». Et elle a écrit d'autres essais. Voilà, ce que je veux sauver. Oui, non, elle dit « La domination masculine n'existe pas ». Voilà, autant vous dire qu'elle a été bien appréciée. Et alors là, elle a écrit avec donc ce Leonardo Orlando, qui est un autre chercheur, un certain nombre... Alors, c'est une série de textes assez brefs sur les relations entre les hommes et les femmes, où elle essaye de débusquer et de critiquer toute une série de théories et d'affirmations qui paraissent aux gens de bon sens assez stupides, mais qui finalement s'implantent de façon assez ferme. Alors, par exemple, il y a un texte sur le paradoxe scandinave. Est-ce que... Alors, vous savez que dans les pays scandinaves, on a décidé qu'on allait habiller les garçons et les filles pareil à l'école. Parce qu'on prétend que la différence des sexes, c'est une construction sociale. Et donc, ça fait que les femmes et les filles sont dominées, et donc il faut lutter contre ça. Et donc, voilà, la première distinction, c'est les vêtements, et à l'école, en tout cas à l'école primaire, eh bien, on les habille pareil. Et là, elle montre que, en fait, ça n'a à peu près rien changé. C'est-à-dire que les garçons préfèrent généralement s'amuser avec des camions et les filles préfèrent s'amuser avec des poupées, enfin, pour faire un peu caricatural. Et elle affirme, et je crois que... Alors, elle cite plusieurs études, hein, c'est pas son opinion personnelle, que, en fait... les hormones et le sexe biologique jouent un rôle énorme, beaucoup plus considérable que les constructions sociales qui imposent des rôles à l'un et l'autre genre. Beaucoup de textes aussi sur les différences professionnelles, les liens entre les aptitudes et les choix professionnels. Et alors, en particulier, elle écrit un grand texte assez intéressant, et elle ne donne pas vraiment l'explication. Bon, comment se fait-il que, effectivement, ce qu'elle appelle les STEAM, c'est-à-dire les sciences mathématiques, ingénierie, etc., etc., il y ait aussi peu de femmes. Et alors, quand vous discutez avec des gens qui ne font que reproduire les opinions communes, c'est les filles sont mauvaises en maths parce que les garçons sont méchants et les empêchent d'en faire. Alors, beaucoup d'études là-dessus qui ont montré que, d'abord, ça fait quelque chose comme 35 ans ou 40 ans qu'on essaye de pousser les filles à faire des sciences et en particulier à faire des maths, et sans succès, parce que même quand elles sont très bonnes en maths et en sciences, ce qui est très fréquent, eh bien, en fait, elles n'en profitent pas, parce qu'elles choisissent d'autres voies professionnelles qui sont plus fondées sur les relations humaines et voire le soin, etc. Voilà. Bon, beaucoup de choses sur tous ces thèmes. Et c'est un livre intéressant. Alors, intéressant d'abord parce que c'est un livre sérieux, bien documenté, bien référencé, avec des auteurs, des études, etc. Et si vous lisez bien l'anglais, vous pourrez vérifier. Elle donne tous les sites internet. Donc voilà, hein, elle joue carte sur table, elle s'appuie sur des études sérieuses. Et alors, en plus, ce sont des textes relativement courts, avec une belle table des matières. C'est-à-dire que si vous voulez tel thème, par exemple, je l'ouvre au hasard, ce que veulent les femmes. Et donc, là, il y a quelques textes sur ce que veulent les femmes. Alors, par exemple, le temps presse pour les femmes. Et oui, car elles ne sont fertiles que pendant une petite période de leur vie, et alors que les hommes le sont beaucoup plus longtemps. Voilà. Et puis après, c'est suivi par ce que veulent les hommes. Bien. Alors, donc, un livre intéressant aux éditions de l'Observatoire de Peggy Sastre et Leonardo Orlando, « Sexe, science et censure ». C'est un livre tout récent, vous pouvez l'acheter bien sûr, vous pouvez l'emprunter aussi. Et je vous dis, vous pouvez en lire un chapitre, par exemple, avant de vous endormir. Voilà, donc Peggy Sastre et Leonardo Orlando. Alors, je vous propose maintenant d'écouter des œuvres de Albinoni. Alors, tout le monde connaît Albinoni parce que tout le monde a entendu à des mariages et même parfois à des enterrements l'adagio d'Albinoni. J'avais un ami autrefois qui était violoncelliste et qui gagnait un peu d'argent comme ça en jouant l'adagio Albinoni. Alors, cet adagio Albinoni, en réalité, n'est pas d'Albinoni. Il a été composé vers 1947 ou 48 par des musicologues. Il n'empêche que Albinoni a bien, bel et bien existé et qu'il a écrit quantité d'œuvres. Donc, alors, Albinoni, 1671-1751. Et il a écrit des concertos, des sonates, etc. Et alors, je vous propose donc d'écouter des concertos pour hautbois. Alors, jouer... Alors, ça a un autre intérêt. Ce CD a un autre intérêt, outre que Albinoni n'est pas très connu à part l'adagio. Mais en plus, il témoigne d'une époque qui est révolue. C'était un groupe de musiciens qui s'appelait I Musici, Il se produisait dans les années 70-75, par là. Et les deux solistes, c'était Heinz Hölliger, très très grand oboïste et légendaire allemand, et Maurice Bourg, très très grand oboïste légendaire français, qui a eu la classe de hautbois pendant longtemps au Sub de Paris. Et donc c'est une conception de cette musique baroque qui a été balayée par la révolution baroque authentique, par exemple l'ensemble baroque de Limoges, qui ont privilégié l'interprétation proprement baroque. Voilà. Donc nous écoutons ces concertos pour deux hautbois de Albinoni. Thank you. Voilà, vous avez entendu ces pièces, ces concertos pour deux hautbois de Tommaso Albinoni, interprétés par Imusici et Heinz Holliger et Maurice Bourg au hautbois. Alors, c'était très typique d'une époque, je dirais, avant Arnoncourt, c'est-à-dire avec les critères de justesse, de beauté du son, privilégié sur l'authenticité. Quand Arnoncourt est arrivé, ça a été une autre lecture de cette musique qui avait son intérêt, mais vous voyez, l'esthétique musicale de cette interprétation me semble tout à fait intéressante. En plus, très belle prise de son. Bien. Alors, un musicien encore vivant, il est même extrêmement vivant puisqu'il est né en 1970, Guillaume Connaisson. Je vous disais tout à l'heure, il est prof d'écriture, je crois, au Sub de Paris. Et il a écrit beaucoup, beaucoup, en particulier des opéras. Et on a même pu voir, je l'ai vu à la télévision, hein, mais un de ses opéras qui s'appelle Les Bains Macabres et qui est une espèce d'opéra à la fois drôle et inquiétant. C'est une sorte de polar et ça se passe dans une piscine sur la plage. Enfin bref, c'est une œuvre tout à fait intéressante. Et alors, Guillaume Connaisson s'affirme en opposition avec l'espèce de glaciation qui a gagné la musique contemporaine dans les années 60 avec Boulez, Stockhausen, Xenakis qui ont fait des partitions absolument inaudibles, hideuses et les bourgeois qui étaient à l'époque au pouvoir, par exemple Pompidou, avaient tellement peur de passer pour des ringards qu'ils les ont favorisés, ils leur ont donné plein d'argent pour monter l'IRCAM, etc., etc. Et puis à côté de ça, eh ben, il y en a qui ont réagi et qui se sont mis davantage à l'écoute de musiciens américains ou anglo-saxons comme Steve Reich, comme Michael Nyman, comme Phil Glass. Alors, Guillaume Connaisson a écrit, donc nous allons écouter un extrait d'un concerto pour flûte et orchestre, alors avec une interprétation curieuse, donc des timbales, trois percussions, deux harpes et des cordes. Alors, c'est une commande. C'est une commande du Chicago Symphony Orchestra et l'Orchestre National de France. Autant vous dire que Connaisson est quand même assez réputé et tenu en grande estime. Donc dirigé par création en 2014 et puis l'année d'après en France, interprétation, enfin création en France, donc en 2015, flûte Mathieu Dufour et l'Orchestre National de France sous la direction de Christophe Eschenbach. Voilà un extrait d'un concerto pour flûte de Guillaume Connaissant, interprété par Mathieu Dufour. Oh, remarquable Mathieu Dufour, cette partition est d'une difficulté effroyable. Et alors en fait, c'est extrait d'un ensemble de pièces qui s'appelle « Pour sortir du jour », qui a été inspiré à Guillaume Connaissant par la mythologie égyptienne. Et donc voilà, c'est le passage de la vie à la mort et un peu de la résurrection. Bon, on n'est pas obligé d'être intéressé par cet aspect des choses, mais musicalement, c'est quand même très intéressant, cette espèce de musique qui est inspirée par la musique de film, par la musique populaire, etc. Alors, deuxième livre de cette émission, donc Pierre Bayard, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Alors, j'ai eu l'occasion de chroniquer sur cette antenne des livres de Pierre Bayard. Alors, il était prof à Paris 8, à Saint-Denis, et il est également psychanalyste. Comme tous les psychanalystes, d'ailleurs, il a une très très grande propension à se moquer parfois un peu du monde. Et c'est ce qu'il avait fait avec Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Cela dit, tout élève de classe prépa littéraire peut vous expliquer comment parler des livres qu'on n'a pas lus, puisqu'on passe notre vie à ça. Mais là, non, comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Alors, il commence par l'histoire de la Dent d'Or, qui est un texte de Fontenelle, écrivain du XVIIIe siècle. Alors, l'histoire de la Dent d'Or, elle est simple, c'est un enfant en Bohême qui est né. Et il avait une dent en or. Alors tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors les uns ont expliqué que c'était un signe de Dieu, etc. On a cherché à l'expliquer, jusqu'au moment où on s'est aperçu que, en fait, il s'agissait d'un peu d'une feuille d'or qu'on avait mis sur sa dent pour un peu par manière de plaisanterie. Et il dit qu'on aurait mieux fait de s'assurer de la réalité des faits avant de commencer à les interpréter. Et alors Pierre Bayard trouve ça tout à fait trouve que c'est une attitude tout à fait désagréable et négative, et que en fait cette affaire de Dent d'Or a permis à des quantités d'autres vérités qui étaient à côté de la vérité factuelle, mais des vérités imaginaires, et que c'était tout aussi intéressant que la vérité factuelle. Et alors, partant de cette idée, il a analysé plusieurs événements qui ne se sont pas produits, mais qui relèvent de la vérité subjective. Alors, par exemple, c'est une histoire dont vous avez peut-être entendu parler, où il y avait un livre qui s'appelait d'un certain Micha Fonseca, qui s'appelait « Survivre avec les loups » et qui racontait comment une petite fille abandonnée des siens avait traversé une partie de l'Europe à la recherche de sa famille en fuyant les nazis. Évidemment, on a trouvé après, il y a des journalistes qui sont allés enquêter et qui ont trouvé que ça ne s'était jamais produit et que d'ailleurs il était impossible que cela se produise. Mais, et alors, ce qu'il y a de bien, c'est le commentaire de Pierre Bayard qui dit « Mais ça a donné lieu à un film, ça a permis à la personne qui avait imaginé ça de se consoler de la perte de ses parents, donc ça avait un grand intérêt. » Autres faits qui ne se sont pas produits mais qu'on analyse, par exemple, c'est une histoire de... Alors je crois que c'est Steinbeck, l'écrivain, qui a raconté comment il avait traversé l'Amérique avec son caniche et sa caravane. Et donc, il fait des quantités, il décrit les endroits où il est passé, etc. Et puis, alors, il y a des journalistes qui sont allés chercher ce qui s'était passé, et il a découvert qu'en fait, Steinbeck avait bien traversé l'Amérique, mais il était avec son chien, mais aussi son épouse, et qu'il n'était pas du tout en caravane, et qu'il était allé dans des motels plutôt confortables. Alors, Pierre Bayard dit, bon, il dit oui, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Il a substitué une vérité subjective qui était une véritable création littéraire. Bon, et puis alors, il y a aussi le livre de Maria Antonietta Mazzocchi, c'est une écrivaine italienne qui avait écrit un livre sur la Chine de Mao, un livre d'un enthousiasme extraordinaire où elle racontait que c'était un endroit merveilleux. Et alors elle avait été absolument démolie par un sinologue, un vrai, qui s'appelait Simon Leiss. Et sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, il lui avait dit qu'il y avait le choix entre dire que Maria Antonietta Mazzocchi était une épouvantable menteuse ou qu'elle était complètement stupide. Il dit « Je préfère croire que vous êtes complètement stupide ». Et là-dessus, son livre, évidemment, a perdu tout succès. Et alors là aussi, Pierre Bayard dit « Finalement, elle a décrit une chose qu'elle avait cru voir, qu'elle avait voulu voir. » Et donc, c'était une sorte de d'œuvre littéraire et une œuvre d'imagination. Alors voilà, on peut être intéressé par l'analyse de Pierre Bayard, mais quand même, à une époque où, à la suite des communicants de Trump, on apprend que finalement la vérité factuelle n'a pas d'importance et qu'on la remplace par la vérité personnelle et subjective de chacun, eh bien, je trouve que c'est un peu dangereux de vouloir promouvoir ce genre de choses. Voilà. Alors, c'est quand même intéressant. C'est aux éditions de Minuit, comme d'habitude, dans une collection qui s'appelle Paradoxe, de Pierre Bayard, donc « Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?» Alors, nous avons entendu des choses un peu étonnantes, qui sortaient un peu du commun. Revenons tranquillement dans des choses bien connues. Un enregistrement très récent de Jean-Claude Penthier, au piano, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Christophe Poppen. Et je vous propose donc d'écouter un extrait du concerto numéro 24 de Mozart.
Thank you.
c'est sur ce concerto numéro 24 de Mozart, interprété par Jean-Claude Pelletier, que je vous dis au revoir à tous et à toutes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RTF 95.4 MHz pour une nouvelle édition des Barricades Mystérieuses. Salut !